Bien chers amis, je suis heureux d'être encore parmi vous. Je vais essayer de ne pas trop forcer sur ma voix, vous l'entendez. J'ai eu une trachéite cette semaine, mais je ne vais pas me plaindre parce que ma femme va encore me gronder. Le médecin m'avait donné un certificat, il est resté dans mon vide-poche, donc j'ai continué à travailler. Donc, comme dirait ma femme, c'est de ta faute. Donc, je vais essayer de ne pas... C'est pour ça que je n'ai pas chanté, c'est pas que je n'aimais pas tes chants, mais j'ai essayé de... Eh bien, chers amis, ce matin, je voudrais vous parler sur un sujet qui est important pour l'Église du Seigneur. Et j'ai intitulé cette prédication « L'Évangile ne change pas ». Et vous savez que nous vivons dans une époque où tout va très vite, une époque connaissant beaucoup de changements. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. De nombreuses théories circulent, de fausses vérités sont proclamées chaque jour. Ce que l'on appelle communément des fake news, on utilise des mots qu'on ne comprend même pas des fois, mais ce sont des fausses nouvelles qui se répandent de plus en plus sur nos réseaux sociaux. Quoi de plus facile que de répandre de fausses nouvelles sur nos réseaux sociaux sans pouvoir même les contrôler, car normalement les journalistes contrôlent leurs informations avant de les diffuser, mais sur les réseaux sociaux, bien entendu, on le contrôle de moins en moins, quoique même nos journalistes, des fois, répandent aussi des fausses nouvelles. Mais enfin, disons qu'en général, ils doivent être plus ou moins objectifs dans ce qu'ils doivent nous informer. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent, que nous écoutons comme information à la radio, à la télévision, et toutes ces informations sont susceptibles de ne pas être vraies. Et malheureusement, l'Église n'est pas épargnée dans cette situation. De nombreux courants théologiques circulent et sèment le trouble au sein de l'Église et au sein du monde, entraînant parfois des chrétiens mal affermis dans le trouble, dans le doute, remettant leur foi en question. Et les inconvertis sont déjà troublés qu'il y ait dans nos milieux chrétiens tant de dénominations. On a encore parlé au boulot cette semaine, on me disait « mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, libéraux, pas le MR, hein, libéraux, hein, baptistes, pentecôtistes, tous les istes, hein, catholiques charismatiques, croyez-vous à la Vierge Marie, etc. » Enfin, plein de choses qui circulent et les gens sont troublés qu'il y ait autant de dénominations, de sous-groupes dans ces dénominations. J'ai connu dans le pentecôtisme, je proviens d'une église pentecôtiste, mais vous aviez en Angleterre une série de pentecôtistes qui ont quitté le mouvement pentecôtiste parce qu'ils n'étaient pas assez pentecôtistes. Donc ils ont fait un mouvement pentecôtiste ultra-pentecôtiste. Voyez-vous, il y a tellement de sous-groupes, de dénominations, on y perd son latin. Et à cause de cela, bien, l'Église s'affaiblit. Et l'apôtre Paul disait, il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. D'après l'apôtre Paul, il est nécessaire que des divisions existent dans le monde chrétien, afin de distinguer la différence entre les vrais chrétiens et ceux qui marchent à contre-courant de la parole de Dieu, en sachant que ces personnes-là se trouvent aussi au milieu de nous et que nous devons faire attention à l'enseignement que nous recevons. Examinons toujours ce qui se dit. Et comme je le dis souvent, si j'ai raconté une bêtise, venez me trouver à la fin de la réunion, afin que je ne persiste pas dans mon erreur. Hein? Donc jusqu'à présent, personne n'est venu encore me trouver. C'est que je n'ai pas encore dit trop de bêtises. Mais n'ayez pas peur de me dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on pourrait toujours s'expliquer. Et méfions-nous vraiment de toutes ces choses, de l'enseignement que nous recevons. Examinons vraiment toujours si tout ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. Méfions-nous des beaux parleurs. Nous entraînons vers un évangile de facilité. L'évangile de la prospérité qui est fort à la mode maintenant, proclamant parfois ce slogan, si tu n'es pas un chrétien riche, ben, tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien doit vivre dans l'abondance. Et toute autre chose que l'on peut encore nous raconter, nous assommons parfois à coups de versets bibliques sortis de leur contexte, même si les versets bibliques sont dans la parole de Dieu, il ne faut pas les sortir de leur contexte afin que de nous prouver qu'ils ont raison. Et l'apôtre Paul disait, j'ai appris à être heureux dans l'abondance comme dans la disette. Donc, dire que le chrétien, qui est un vrai chrétien, s'enrichit ou a une montre Rolex, moi je n'en ai pas, elle coûte 29 euros en tout cas, celle-ci. Donc, voyez-vous, ce n'est pas l'évangile de la prospérité que je vais vous annoncer. Je veux simplement annoncer l'évangile comme il est écrit dans la parole de Dieu. Écoutons justement ce que cette parole nous dit, et nous trouvons déjà Galates chapitre 1er. Verset que nous connaissons certainement fort bien, mais il est bon de nous rappeler ce que la parole de Dieu dit sur la véracité de cette parole. Galates chapitre 1er, verset 6. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Avançons plus loin, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Paul s'adresse à un jeune serviteur de Dieu, Timothée. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute. Reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis les tâches d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ce qui arrive, vous le constatez par ces lectures, ce n'est pas nouveau. Dès la naissance de l'Église, déjà des courants théologiques différents circulaient, annonçant un autre évangile. Et l'apôtre Paul de s'insurger auprès des chrétiens de cette époque, il dit « il n'y a pas un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre évangile. » Et personnellement, je préciserai, il n'y a pas un autre évangile que celui de Jésus-Christ crucifié pour des coupables que nous étions. Un Jésus-Christ qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. Un Jésus-Christ ressuscité. Et non pas seulement qu'il est ressuscité, mais un Jésus-Christ qui est remonté au ciel pour nous préparer une place. Voilà, frères et sœurs, à l'évangile auquel je crois. Et je pense et j'en suis sûr que la plupart d'entre nous, j'espère tous, croyez aussi à cet évangile. Il n'y a pas d'autre évangile, mais des gens sèment le trouble encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, face aux événements tragiques que nous vivons, avec cette guerre en Ukraine et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de bruit qui court sur le retour de Jésus. Bien sûr que Jésus revient, et je le crois. Et Jésus disait, quand vous entendrez ces événements, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et nous devons, en tant que chrétiens, nous préparer à son retour. Mais n'oublions pas ce que Jésus lui-même disait. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul, les connaît. Alors, arrêtons de spéculer et de lancer des fake news, comme on peut dire aussi même sur le retour du Seigneur. Le Seigneur sait quand il reviendra. Vous savez, on a connu pas mal de guerres, et chaque fois qu'il y avait une guerre, on dit « Ah, Jésus revient ». Mais c'est vrai, j'en suis certain. Et moi qui suis né dans un milieu évangélique, et que je connais depuis que je courais encore culotte, j'ai entendu des prophéties « Jésus revient bientôt ». Et ça fait plus de 60 ans que j'entends ça. Et quand on entend la parole de Dieu qui nous dit « Jésus revient bientôt », il y a 2000 ans qu'on entend ça, et on va dire « Mais il n'est pas encore revenu, c'est vrai ». Mais il va revenir. Mais c'est le temps de Dieu, c'est pas notre temps. À nous de vivre comme si Jésus allait revenir demain. Mais à continuer à vivre comme s'il reviendrait dans 100 ans. À vivre une vie de sanctification et être conforme à la parole de Dieu. Oui, nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Mais concentrons-nous d'abord sur sa parole. Et vivons vraiment une vie chrétienne qui nous préparera à son retour et que nous puissions garder notre robe blanche afin qu'elle soit sans tache. Et Paul nous met en garde, frères et sœurs. Il nous dit, même si un ange du ciel nous annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit. Même si un ange du ciel se présentait aujourd'hui au milieu de nous et qu'il nous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit, nous dit l'apôtre Paul. Ne nous laissons pas facilement influencer, frères et sœurs, par ce que nous entendons. Nous devons être des adultes spirituels, affermis sur la parole de Dieu. Regardons, plongeons nos regards dans cette parole pour voir si ce que nous entendons est bien clair et correct d'après la parole que Dieu a inspirée. Et il est sûr et certain qu'avec les moyens techniques que nous avons maintenant, Internet nous met en contact avec toutes sortes de prédicateurs, et tant mieux pour ceux qui ne peuvent plus, pour raison de santé, se déplacer et venir dans les églises. Il y a des prédicateurs qui annoncent le plein évangile sur Internet. On bénit le Seigneur pour cela. Et malheureusement, le Covid nous a bien montré aussi, ça je fais une parenthèse, mais malheureusement, certains se sont dit « Pourquoi encore aller à l'église si l'église vient à la maison ?» Donc, soit dit en passant, même si nous avons des moyens techniques, eh bien, regardez et écoutez, mais de grâce, quand il y a le culte, venons ensemble ici pour louer le Seigneur. Ceci est une parenthèse, mais je vous dis ceci, car ne nous laissons pas manipuler par tous ces prédicateurs, aussi célèbres soient-ils, la parole de Dieu privant sur leur enseignement. C'est la parole de Dieu qui est maître et nous ne devons pas nous laisser influencer par des haut-parleurs. Notre prédication, frères et sœurs, ne doit pas plaire aux hommes. Et c'est vrai que des fois, ce que nous entendons du haut d'une tribune ne nous plaît peut-être pas. Parce que ça nous remet en question. Parce que ça nous remet sur les rails. Parce que le Seigneur nous pointe du doigt. Il fut un temps où, dans notre famille, nous avons un peu battu le beurre, comme on dit, et pendant plusieurs dimanches, la parole de Dieu qui nous était adressée nous pointait du doigt. Et nous faisait mal, mais nous a remis sur les rails. Et parfois, on se disait, mais c'est pas possible, le pasteur vit dans notre cuisine pour qu'il nous apporte ce que nous avons besoin d'entendre. Et frères et sœurs, c'est cela la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui pointe du doigt le chrétien. Et là, nous reconnaissons que la parole vient vraiment de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu ne peut pas plaire aux hommes. Même si ce que nous prêchons peut être dur à entendre, il est indispensable de le dire. Il est indispensable de le prononcer, qu'il soit dans la ligne de la doctrine de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas, et c'est notre responsabilité en tant que prédicateur, d'apporter un message suivant l'air du temps. On aime bien nous caresser dans le sens du poil. Pour ceux qui ont encore des poils, évidemment. Hein. On apporte cette prédication dans l'air du temps afin de plaire aux hommes. Mais il est indispensable que nous soyons fidèles aux Écritures et plaire à Dieu. Je pourrais vous dire des belles choses qui vont vous faire plaisir, mais non. Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » La parole de Dieu, frères et sœurs, est une épée tranchant là où ça fait mal. Si vous avez un gros bouton, là, plein de pus, il faut le trancher, ça fait mal, il faut le faire sortir. Et la parole de Dieu, eh bien voilà, elle coupe le furoncle qui est en nous, ça fait mal, mais tout ce qui est mauvais doit sortir, ne peut pas rester. La parole de Dieu est vraiment une épée, et celle-ci ne flatte personne, la parole de Dieu. Elle montre à l'homme, quelle que soit sa position sociale, ce qu'il est à la lumière de Dieu. Un pécheur voué à la condamnation et qui ne peut être sauvé que par le sang de Jésus-Christ. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, c'est pas possible. C'est pas possible. L'homme est pécheur et l'homme est mauvais. Même s'il y a des braves personnes dont je fais partie, dont vous faisiez partie. Mais pour Dieu, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et comme disait notre frère, c'est vrai, Dieu nous voit beaux au travers du sang de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons dire aux gens. Et nous ne devons pas vous dire, mais vous êtes braves, vous allez aller au ciel. Nous irons tous au paradis, ça c'est Pandaref qui disait ça, mais voilà. Il y a 2000 ans que ces textes sont écrits, et pourtant ils sont d'une actualité brûlante, frères et sœurs. Rien n'a vraiment changé depuis cette époque. Réécoutons ce qui a été lu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage. Prêche la parole, cela veut dire prêche la parole qui t'a été enseignée. Cette parole qui t'a été enseignée, Timothée, ne prêche pas autre chose. Ne prêche pas une autre parole, ne prêche pas un autre évangile, prêche l'enseignement de Jésus-Christ. Insiste sur la véracité des écrits et l'authenticité de ce message qui est clair, sans aucune fioriture, afin de l'embellir, afin qu'il soit plus acceptable. Il ne doit pas être réécrit, ce texte. Il ne doit pas être adapté au 21e siècle. On a toujours l'air de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vieilles et qu'il faut réécrire tout ça parce que ce n'est plus d'actualité. La parole de Dieu est immuable. Ce qui était bien il y a 2000 ans reste toujours bien aujourd'hui. Et ce qui était mal il y a 2000 ans reste toujours mal aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit qu'on appellera le bien mal et le mal bien, et c'est ce qui est en train d'arriver. Les choses qui étaient ignobles, impossibles à concilier, à considérer, maintenant c'est bien. Même l'adultère n'est plus un délit. C'est normal. Ah, tu ne trompes pas ta femme, toi. Ah bon? Quand on me dit, il y a combien d'années? Il y a 40 ans que tu es marié. Ah, avec la même femme? Je dis oui. Oh, mais regarde là, le vieux. Vraiment, le vieux dinosaure, là, qui surgit de nulle part. C'est pas possible. Non, tu n'as jamais. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal pour les gens, mais c'est comme ça. Et même dans nos milieux chrétiens, frères et sœurs. Hein? Nous devons réfuter les erreurs doctrinales et non pas vivre avec notre temps. Il est temps de remettre l'Église au milieu du village, réapprendre les valeurs bibliques. Frères et sœurs, l'Église est en train de chanceler sur ses bases à cause de toutes ces fausses vérités, à cause de toutes ces réadaptations de la doctrine. Frères et sœurs, oui, l'Église peut chanceler si elle ne se reprend pas. Elle doit être bâtie sur les enseignements de Jésus-Christ et les apôtres qui ont reçu cette révélation et nous l'ont transmise. Voilà sur quoi l'Église doit se fonder. Frères et sœurs, il est de notre devoir de reprendre nos frères et sœurs qui sortent du droit chemin afin de leur faire réintégrer la saine doctrine de la parole de Dieu. Et surtout, nous avons la responsabilité d'encourager les chrétiens, ceux qui sont dans le questionnement, ne sachant plus ce qu'ils doivent faire ou croire, les remettant dans le droit chemin de la parole biblique. Cette parole doit être notre guide, elle doit être notre boussole. Encourager ceux qui sont fidèles à demeurer fermes dans la foi. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et nous sommes dans ce temps-là. Le monde ne supporte plus la vérité. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'Église se laisse emporter par ce courant. Ça, c'est grave. L'on n'aime plus être repris, nous ne voulons plus nous remettre en question. Il est plus facile d'entendre dire que l'on peut vivre comme bon nous semble, que la morale de la Bible est dépassée, et que Dieu ne voulait pas vraiment dire cela. Hein? C'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Non, il y a une mauvaise interprétation. Un pasteur me dit que la parole de Dieu, chacun peut l'interpréter à sa façon, chacun une lecture bien définie de la parole de Dieu. Voilà. Et bien voilà. Ça, c'est l'évangile de la facilité, frères et sœurs. Et on dit, mais non, c'est plus d'actualité, voyons, il faut vivre avec son temps. Cela sonne mieux aux oreilles que d'entendre dire, mon frère, ma sœur, tu vis dans l'immoralité. Et cette immoralité s'appelle le péché. Ouh! Ah, on a des frissons hein, quand on dit péché, péché. C'est quelque chose qu'on ne supporte plus dans notre époque de parler de péché. C'est vieillant cela. Cela sonne mieux si l'on dit, eh bien oui, tu as fait ça, mais c'est un moment d'égarement. Un moment d'égarement, voilà. Et Dieu n'en tiendra pas compte. Hein. Il sait bien que nous sommes faibles et tu t'es égaré. Frères et sœurs, soyons vigilants, car dans nos églises, l'on enseigne ce genre de doctrine. Et cela flatte nos oreilles, cela plaît. En entendant, nos églises se vident. Oui. Nos églises se vident. Parce qu'elles vivent comme le monde. Alors, pourquoi aller à l'église? Puisque le monde nous apporte la même chose. Si l'église reçoit le monde et son enseignement, alors pourquoi encore aller à l'église? N'est-ce pas? Nous avons une foule d'enseignants spécialistes nous donnant un avis contradictoire à la parole de Dieu. Un bête exemple, quand vous entendez ce qui se passe en Ukraine pour l'instant et que vous en écoutez sur LCI et toutes ces chaînes d'information, ben si vous écoutez ça pendant une journée, vous ne savez plus quoi croire parce que certains vont dire n'y a aucun souci nucléaire. D'autres, oui, c'est très dangereux. On risque de ramasser une bombe nucléaire. Un autre dit, oh, les Russes ne sont pas très puissants. Les autres diront, les Ukrainiens sont très puissants. Et puis on vous dira tout et le contraire. En fin de journée, on est complètement déstabilisé. Et c'est un peu comme cela qui se passe dans ce qui se passe dans l'enseignement dans nos églises. C'est contradictoire à la parole de Dieu. Et même au sein de notre église établie ou sur les différents médias, quel drame quand on annonce une autre forme d'évangile. Un évangile allégé, light, bio. Hein, on mange light hein, maintenant, hein, on ne va pas prendre des kilos. Alors, un petit évangile bien léger, le matin, tu prends ça, au déjeuner, à midi, oh, si tu peux t'en passer, tu t'en passes, et le soir, une petite prière pour aller dormir, pour passer une bonne nuit, genre de tisane. Voilà l'évangile. L'évangile allégé que nous prêche, débarrassé surtout du mot péché. Ah, parce que ça fait grossir, hein, le péché. Ouh, le péché, c'est affreux. Sanctification, oh non, n'en parlons pas. On n'est pas de grenouilles de bénitier quand même, hein. Non, ben, voilà ce qu'on prêche. Chez personne, malheureusement, déforme la saine doctrine et entraîne avec eux dans l'égarement des chrétiens qui ne sont pas enracinés profondément dans la parole de Dieu. Ce sont des fables, nous dira l'apôtre Paul, des contes à dormir debout. Ils endorment notre conscience. Frères et sœurs, soyons vigilants à ce que nous écoutons ou voyons, tout ne vient pas de Dieu. Bien sûr, vivre à contre-courant, c'est un combat, une souffrance pour le chrétien fidèle. Il doit subir les railleries et les moqueries du monde, et même des chrétiens qui sont larges d'esprit. C'est un combat avec nous-mêmes. Nous pouvons nous poser la question, suis-je vraiment dans la vérité ou suis-je étroit d'esprit, refusant de vivre comme l'ensemble de la collectivité ? Paul, il y a 2000 ans, vivait les mêmes angoisses que nous. Rien n'a vraiment changé dans ce monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous disait l'Ecclésiaste. Il dit là, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Ça c'est important. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il arrive à cette conclusion, il a combattu le bon combat. Non, il ne s'est pas trompé. Oui, il a gardé la foi malgré les difficultés qui se sont accumulées sur sa route, malgré les contrariétés, malgré les courants théologiques qui circulaient, malgré les coups dans le dos qu'il a reçus par ses collègues, malgré tout ce qu'il a vu dans l'Église déjà à l'époque. Cela valait la peine. La couronne de vie l'attend dans les cieux. Frères et sœurs, nous menons un combat difficile. C'est difficile que de rester fidèle à la parole de Dieu. Nous subirons des moqueries, de l'incompréhension. Nous perdrons des amis. Mais cela en vaut vraiment la peine. Une récompense nous attend aux cieux. Il nous dira, viens, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et l'apôtre Paul de s'étonner avec les Galates, vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors je nous pose une question ce matin. Sommes-nous parmi ceux qui avaient bien commencé à courir? Vous savez, on est toujours plein de bonnes résolutions. Hein. Je vais perdre quelques kilos, je vais me mettre à courir. Hein, et on commence à courir dans les bois. Pour moi, ça a toujours resté une résolution. Hein. Et on court, j'en connais certains qui disent, ils achètent un équipement complet, ils vont chez Decathlon, ils achètent toutes les tenues possibles, imaginables, ils commencent à courir. Un jour, deux jours, trois jours, et puis, troisième jour, on fait hein, un peu, moi aujourd'hui, non, je sais pas. Et voilà. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous nous équipons, nous courons, et puis, nous nous arrêtons. Et ensuite, nous sommes arrêtés, afin de suivre un autre chemin, afin de suivre une autre soi-disant vérité. Qu'avons-nous fait? Qui nous a séduits? Avons-nous découvert un autre évangile? Mais il n'y en a pas, frères et sœurs. Dans quel chemin nous sommes-nous embourbés? Cette mauvaise influence ne vient pas de notre Dieu, mais de notre ennemi. Voulant notre perte, soyons vigilants, frères et sœurs, car on est vite sorti du chemin que Dieu nous a assigné. Si telle est l'influence que nous subissons, eh bien revenons dans le droit chemin. Et pour tous ceux qui ont gardé la foi en Jésus-Christ, soyons attentifs, écoutons ces quelques versets afin de nous encourager et de demeurer fermes. 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes et non pas des enfants. Les enfants, on peut leur faire croire n'importe quoi. Parce qu'ils croient au Père Noël, à Saint-Nicolas. Ben, si vous croyez encore au Père Noël ou à Saint-Nicolas, hein, c'est qu'il y a un problème. Je parle pour notre foi chrétienne. Là, il y a un problème. On peut vous faire croire n'importe quoi. Soyez des hommes mûrs, des hommes capables de raisonner, des hommes et des femmes, bien entendu, hein, vous êtes dedans, mes sœurs. Hein. Soyez vraiment des adultes spirituels, afin de demeurer fermes, que les attaques de l'ennemi ne nous atteignent pas, ne nous fassent pas tomber dans un autre évangile. Hébreux 4, 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans les enseignements de l'Évangile. Demeurons fermes dans ce que nous avons entendu, dans ce que nous avons vécu, dans nos expériences avec le Christ. Demeurez fermement enracinés dans la foi. Voilà ce que nous demande notre Dieu. Non par nos propres forces, frères et sœurs, parce que là, on tombera. Mais avec l'aide de Dieu, demeurons dans cette foi, gardons l'enseignement que nous avons reçu. Bien sûr, dans une communauté comme celle-ci, et encore dans les plus grandes communautés, nous pouvons avoir des divergences de vues. Nous pouvons ne pas toujours penser la même chose. Et heureusement, nous serions des clones. Ce serait grave que si vous seriez tous des Daniels. Hein, je vois déjà Guy la tête qui fait. Oui. Mais alors, si vous êtes des Guy, oui, oui, oui. Hein, enfin, ou si vous êtes des Simon, oui, mais oui, voilà. Elle est gentille, c'est pas ça. Non, mais je vous dis, si nous étions une autre personne, nous serions tous les mêmes. Mais c'est pas cela. Nous avons notre personnalité. Le Seigneur nous a créés avec notre personnalité. Et bien sûr que nous pouvons avoir des divergences de vue. Et dans l'Église primitive, il y avait des divergences de vues. Et l'apôtre Paul admet qu'il y a des divergences de vues. Divergences de vues sur des détails, mais pas sur des fondamentaux. Pas remettre en question que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pas remettre en question sa mort, sa résurrection, son ascension. Ne pas remettre en question qu'il n'est pas auprès du Père en train d'intercéder pour nous. Toutes ces choses-là, tout ce qui est fondamental, eh bien, nous le conservons, mais il y a des petits détails où nous ne sommes pas d'accord. La manière de louer, la manière de chanter, la manière de prêcher. Et l'apôtre Paul peut l'admettre. Mais il dit, nous tous qui sommes parfaits, c'est magnifique, voilà, vous êtes tous parfaits. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Hein. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qui est important, seulement. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà ce qui est important. Nous avons traversé, frères et sœurs, certainement des épreuves. Nous avons traversé pas mal de choses dans notre vie chrétienne. Nous avons connu des choses, des bénédictions, des moments durs, des moments pénibles. Nous avons vu la grâce de Dieu. Mais au point où tu es parvenu, mon frère, ma sœur, au point où je suis parvenu après tant d'années, c'est pas le moment de baisser les bras, de changer l'évangile. Hein. Marchons dans le même pas, qu'il nous dit. C'est là qui est important. Marchons dans le même pas, ensemble, avec peut-être notre certaine divergence, avec nos caractères différents, mais marchons ensemble pour que l'Église soit une Église unie, comme le Père et le Fils sont un. Frères et sœurs, marchons ensemble avec le Seigneur et la bénédiction du Seigneur nous accompagnera. Amen.